Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une histoire d'amour, c'est d'abord une rencontre, une attirance, une découverte, une harmonie, parfois un engagement. Mais certaines de ces relations s'abîment ou s'arrêtent dans des circonstances qui peuvent se révéler extrêmement douloureuses. Lorsque l'on est quitté, lorsque l'on est trompé, lorsque l'on part, lorsqu'un deuil prive brusquement de l'autre d'un partenaire. Alors après cette séparation, comment retrouver l'amour? Quelles émotions? Quelles expériences? Comment envisager une nouvelle rencontre lorsque la solitude pèse, mais que l'on a peur de faire des projets à deux? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Priorité Santé, et en particulier les questions qui se posent, les doutes sur l'engagement après avoir connu une première rupture. Comment ne pas se tromper? Comment accepter de se laisser séduire lorsque l'on est blessé? En fonction de nos lieux de vie et de certaines habitudes, cette reconstruction est d'autant plus compliquée qu'il faut compter avec le jugement des autres, le regard de la famille, inquiète de la réputation par exemple. Vos témoignages, vos questions, c'est donc sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro au 33 1 84 22 75 75. Vos témoignages pour évoquer vos parcours, les obstacles et l'espoir aussi pour retrouver la tendresse, la confiance. À votre écoute, une spécialiste pour vous conseiller, docteur Myriam Fatmi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et sexologue à Tunis. Et en fin d'émission, vous retrouverez l'extrait du podcast Carnet de Santé, reportage au Bénin, au nord de Porto Novo, avec Charlie Dupiot, à la rencontre de Chanceline, qui anime des formations, des séances sur la santé sexuelle, menstruation, contraception, sexualité, un dialogue avec la jeunesse.
Notre santé, si on en parlait.
Envisager cette nouvelle rencontre après une séparation. Docteur Myriam Fatmi, dans vos consultations, les femmes qui éprouvent des difficultés pour retrouver un partenaire, retrouver l'amour, quels obstacles évoquent-elles?
Au départ, le premier obstacle, c'est le regard de l'autre. Généralement, ce sont des femmes qui sont divorcées ou qui ont vécu des ruptures assez violentes. Et donc, elles recherchent l'amour, mais elles ont peur de retomber dans le même schéma, de souffrir à nouveau. Cette souffrance-là les empêche de s'aimer elles-mêmes et de ce fait d'aimer l'autre.
Est-ce qu'elles sont également mises en difficulté parce que du fait de ce divorce, il y a ce regard de la société qui les juge aujourd'hui un petit peu abîmées, indésirables ou alors de mauvaise réputation?
En fait, il y a les deux. Mmh. Alors, il y a ce regard de la société comme quoi une femme divorcée ne peut pas avoir droit à l'amour. Que voilà, si elle a divorcé, c'est que c'est pas forcément une personne qui est capable d'aimer ou qui sait maintenir, disons, un foyer ou qui peut rester en couple longtemps. Et puis, il y a aussi cette manière de juger les femmes divorcées et de les empêcher indirectement de retrouver l'amour par rapport au oui-dire, voilà, qu'en dira-t-on si je sors, si je me mets à nouveau à la recherche d'un partenaire. C'est des obstacles qui pèsent lourd sur ces femmes-là.
S'engager à nouveau, c'est aussi arriver avec un certain nombre de blessures, docteur Fatmi, et certaines d'entre elles peuvent laisser des traces longtemps.
Oui, bien sûr. Les blessures, elles sont là, mais il faut savoir se libérer de ces blessures. Il y a celles avec lesquelles on se libère avec le temps, d'autres pour lesquelles il faut vraiment une aide psychologique pour se libérer.
Et on peut se sentir donc en forme d'insécurité affective. Et là, il y a même des stratagèmes d'éloignement pour ne pas se mettre en danger, docteur Fatmi. Ne pas se donner les moyens en termes de temps, d'opportunités, refuser les sorties, les nouvelles activités, les nouvelles têtes.
Oui, bien sûr. Il y a même des femmes qui se laissent aller, qui s'entretiennent plus, qui ne font plus attention à elles-mêmes, juste afin d'éviter d'attirer le regard de l'autre.
Et à ces femmes, celles qui disent d'une certaine manière qu'elles baissent les bras en disant « pour moi c'est fini, docteur Myriam Fatmi », qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes, celles qui disent « ça fait trop mal, c'est trop dangereux, j'arrête ».
Je leur dis qu'il ne faut jamais abandonner la quête de l'amour. Parce que l'être humain est fait pour vivre en couple. On ne peut pas vivre seul. La solitude est quelque chose de très pesant, aussi bien psychologiquement, physiquement, socialement, et qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de partager des moments avec l'autre. Et de ce fait, il faut toujours chercher l'amour.
Est-ce que cette nouvelle quête, elle doit forcément passer, docteur Fatmi, par une sorte d'introspection, d'explication, d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre d'une certaine manière pourquoi cette précédente relation n'a pas fonctionné?
Oui, il est très important d'avoir du recul, de se dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et puis aussi qu'est-ce que je recherche aujourd'hui. Ce qu'on aime à 20 ans, on ne l'aime pas à 30 ans, à 40 ans et à 50 ans, voire même à 70 ans. On évolue, nos attentes aussi évoluent et notre quête aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment que quand on veut reconquérir l'amour, on est en posture différente quand on est un homme, quand on est une femme?
Oui, quand on est un homme, on est plus dans la recherche du plaire. On veut plaire au maximum de femmes, avoir le maximum de conquêtes, parce que ça a un côté rassurant aussi. Quand on est une femme, on est plutôt dans l'émotionnel. On cherche à être rassurée, on cherche à partager émotionnellement avec l'autre personne. Il faut savoir aussi que c'est ce que j'appelle communément le syndrome de la belle au bois dormant. Chez les femmes, l'amour, c'est plus émotionnel que physique. On cherche d'abord la personne qui va nous correspondre émotionnellement, qui va pouvoir nous rassurer, qui va pouvoir aussi nous redonner confiance en nous, avec laquelle on se sent en sécurité.
Et les blessures, ce sont les mêmes ?
Ce ne sont pas les mêmes. Les blessures ne peuvent pas être les mêmes puisque nous avons en face à chaque fois une nouvelle personne. Et donc, il faut apprendre à connaître l'autre, mais surtout apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer correctement quelqu'un et de lui demander aussi de nous aimer en retour si on ne s'aime pas soi-même.
Et nous allons tout de suite entendre les premiers témoignages. C'est notre palabre au féminin, deux auditrices qui se confient aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Raphaël Constant a rencontré Yasmine et Linda, elles ont toutes les deux 31 ans. La rupture les a transformées et elles nous racontent comment, par la suite, elles ont retrouvé l'amour.
C'est l'histoire d'une jeune fille qui a rencontré l'amour à 22 ans. Donc on commence une relation, on se marie 2 ans et demi plus tard et on va dire que la vie change. On évolue chacun différemment, sur des projets différents. On n'arrive plus à se retrouver. Et au bout de 5 ans de mariage, bon, on décide de se séparer. Difficilement, c'était un raz-de-marée. Parce qu'on est en Afrique, parce que c'est compliqué pour une femme de dire qu'elle veut partir. Les familles n'acceptent pas. Et surtout la société. Parce qu'on a le côté société africaine de la femme doit supporter. Si un mariage échoue, c'est la faute de la femme. Donc, prendre son courage à deux mains. Et je découvre un côté en fait, que je n'avais pas mesuré, qui est la santé mentale. Donc, ma mère exige que je sois suivie par un psychologue. Quand tu décides que c'est fini, il faut assumer que ben, tu fermes pratiquement 7 ans à 8 ans de ta vie. En fait. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans un appart et tu es toute seule. Je pense que cette solitude-là, tu accuses le coup, en fait. J'ai été transformée moi-même par ce mariage et ce divorce, donc je suis une autre personne. T'es beaucoup plus raisonnée, en fait. J'ai guéri de mes blessures et j'ai pris le temps d'être seule. Je pense que le célibat m'a permis de me connaître moi-même, en fait, et de m'accepter en tant que la femme que je suis et de mieux définir mes attentes.
Alors, moi, j'ai rencontré donc, le père de mes enfants à 19 ans, juste après mon bac. C'était tout beau quand déjà on venait de se rencontrer, donc au bout de 3 ans, je commençais à voir autre chose. C'était un amour toxique, parce que c'était vraiment une dépendance. Finalement, quand on était ensemble, on n'était pas heureux. Quand on n'était pas ensemble, on n'était pas heureux. C'était comme une drogue. Pendant tous ces 10 ans, j'étais mal, et je n'avais pas le droit d'être mal, parce que finalement, le père de mes enfants faisait en sorte qu'on paraisse tellement beau, tellement bien. Je l'ai quitté. L'amour, c'est, j'avais mis une croix dessus. Hein, parce que le seul amour que j'avais connu, c'était cet amour toxique. Donc je me disais, si ça ressemble à ça, l'amour, franchement, j'en veux pas. Et j'ai rencontré quelqu'un fin janvier. qui était exactement tout ce que je ne pensais plus pouvoir retrouver. Avec mon nouveau compagnon, tout a été fluide, c'était une évidence.
Et comment on surmonte alors cette épreuve difficile de la rupture, du chagrin d'amour ? Et comment on s'ouvre à retrouver l'amour ?
Si on part du principe qu'on guérit, qu'on accepte la situation et qu'on ne la prend pas comme une tare et comme le plus grand échec de sa vie, ben on rebondit en fait à un moment. Et à partir du moment où on décide nous-mêmes d'avancer et de fermer la porte à son histoire, tu n'as pas cette dépendance affective. Et au début du célibat, tu peux avoir une petite période de dépendance affective, surtout quand tu fais des longues relations. À force de ne pas chercher, en fait, ça vient tout seul. Quand tu ne t'y attends pas, ben ça te tombe dessus.
Alors, en quoi c'est difficile de se relancer dans une relation amoureuse ?
Tu te sens fragile, vulnérable. Aller vers quelqu'un, c'est aussi se mettre à nu. Est-ce que je pourrais avoir confiance en cette personne pour pas qu'elle me fasse de mal ? J'avais peur de me retrouver toute seule aussi. Et bah, je suis bien contente d'avoir pris le pari. Je m'attendais, on va dire, à un petit flirt. Je me disais, bon, bah, c'est une remise en jambe de reprendre confiance. Et j'étais tellement fermée, fermée. Mais non, finalement, c'était facile, c'était fluide. Tout ce que mon ex n'a pas fait en 12 ans, en moins de 6 mois, mon nouveau compagnon l'a fait. À chaque fois, je lui disais, c'est quoi l'arnaque ? Et jusqu'à maintenant, ça va.
On s'est rencontrés il y a 2 ans maintenant, oui, 2 ans. Et on va dire depuis 6 mois, ou un peu moins de 6 mois, qu'on a décidé de se mettre ensemble. Mais ça va très vite, très très vite. Je veux dire, il me dit toujours, t'es tout en train de me canaliser. Oui, je canalise beaucoup. Je lui dis doucement, doucement, doucement. Mais ça dépendrait que de lui. Je pense que j'aurais déjà la bague au doigt, on serait mariés, on serait en train de faire des enfants. Et je lui dis doucement. J'ai peut-être besoin un peu plus de temps, moi aussi, pour asseoir les choses. Donc, ouais, on apprend.
Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditrices qui nous écoutent, qui ont peut-être le cœur brisé, qui ont peur de ne pas retrouver l'amour ?
L'amour, ça commence par l'amour de soi. À partir du moment où on s'aime, on n'attire que des personnes qui nous aimeront autant, voire plus fort.
Tout est dit. Il faut vraiment être apaisé et s'accepter.
Oui, on peut totalement retrouver l'amour. On ne peut que retrouver de l'amour dans tous les cas parce que on ne vit que de ça. Ça serait dommage de vivre une vie sans amour.
Se retrouver, comprendre, on entend des femmes qui ont réfléchi à ces relations, qui ont pris conscience de tout le chemin parcouru. Et elles disent ce que vous nous disiez tout à l'heure, docteur Myriam Fatmi, on ne peut pas vivre sans amour, des propos recueillis par Raphaël Constant. On entend tout le travail de reconstruction.
Oui, quel beau témoignage. C'est très important de faire un travail sur soi. Parce qu'en faisant ce travail-là, on prend conscience de nos attentes, de ce que nous cherchons chez l'autre. Et aussi, nous prenons confiance en l'autre. C'est vrai qu'il y a la loi de l'attraction en matière d'amour. Si on n'y croit pas, si on ne le recherche pas, il ne va jamais venir frapper à notre porte.
On va prendre une première auditrice en ligne. On part tout de suite pour le Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et en ligne, c'est Lydie. Lydie, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, votre histoire d'amour s'est terminée en 2004, il y a près de 18 ans. C'était une rencontre assez jeune, à 25 ans. Comment est-ce que ça se passait avec votre partenaire ?
Avec mon partenaire, ça se passait bien. Il ne manifestait pas des signes d'infidélité. C'est après la 10e année que je me suis rendu compte qu'il n'était pas fidèle et que les problèmes ont surgi. Malgré ça, on a fait 3 ans de plus. On a fait 13 ans. Et je préférais qu'on puisse se rompre. Et depuis ce temps-là, depuis 2004, je vis seule et je n'accepte plus qu'un homme puisse me dire qu'il m'aime.
Lydie, il y a donc eu cette séparation. De votre relation était né un enfant. Cette séparation, pourquoi ? Parce que vous vous êtes sentie trahie, vous n'avez pas réussi à surmonter la trahison ?
Oui, je n'ai pas supporté ça. Parce que c'est d'abord une relation que ma famille s'était opposée. Vu cette déception, ça m'a vraiment enfouie dans un terrible nuage que je n'arrivais plus à me retrouver. Donc j'ai pris la résolution de ne plus avoir un homme auprès de moi.
Parce que si je comprends bien, vous aviez choisi cet homme malgré ce que vous avez dit votre famille, vous aviez tenu bon Et finalement, vous avez eu le sentiment que votre famille avait raison, que vous n'auriez pas dû vous engager, c'est ça?
Oui.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans votre vie? Est-ce que vous faites des rencontres ou pas du tout?
J'ai plein de rencontres. Le plus qui a duré, c'est un monsieur qui est derrière moi depuis 7 ans. Je n'accorde pas l'amitié sincère.
Pas d'amitié sincère, ça veut dire quoi? Vous sortez quand même un petit peu avec lui? Vous avez des relations ou rien de sérieux?
On parle, on n'a pas de relation. On a seulement nos contacts, qu'on parle, on discute. J'ai un souci, il peut me conseiller, comme moi aussi, mais pas plus de ça.
Et pourtant, vous savez qu'il est attiré par vous ou pas vraiment?
Il est attiré par moi, lui-même l'a déclaré plusieurs fois.
Mais il ne se lasse pas d'attendre. Hein. 7 ans, ça peut paraître long, mais lui, il est toujours là.
Il me dit qu'il me laisse prendre le temps.
Ah bah, il est patient, le monsieur. Vous êtes sûr, quand vous dites ça, que c'est la bonne chose à faire? Que penser que l'amour, c'est fini pour vous, Lydie, c'est une bonne chose? Ou vous avez quand même envie, un jour, de refaire confiance à un homme?
J'ai envie de refaire confiance à un homme, mais s'il y a un petit quoi, je me rétracte vite. C'est un peu ça dont j'évite maintenant, de causer le mal à quelqu'un que moi j'ai subi.
Mmh. Vous ne voulez pas décevoir quelqu'un d'autre, c'est ça?
Oui.
Ouais. Très prudente, Lydie. Hein. On entend Dr Myriam Fatmi, une femme qui, depuis 18 ans, n'arrive toujours pas à tourner la page avec tous ses doutes. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage?
Je dirais à Lydie de se libérer cette blessure. Et surtout, ce que j'ai entendu à travers le témoignage de Lydie, c'est qu'avec la personne qui l'attend depuis 7 ans, il y a une forte communication, une belle communication, puisqu'ils se conseillent mutuellement, ils se font confiance. Donc, je dirais à Lydie, si vous faites confiance à cette personne pour lui raconter vos soucis, pour demander conseil et que c'est réciproque, il faudrait avoir un petit peu plus confiance en cette personne, s'ouvrir à cette personne et voir ce qu'elle peut vous apporter de plus.
Lydie, est-ce que vous êtes prête à dire à cette personne vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à tout ce qui s'est passé, ou cette personne, cet homme est déjà au courant?
Oui, cet homme, au début de notre rencontre, je lui ai fait état de tout, je ne lui ai rien caché.
Mais malgré tout, il est resté.
Et la seule chose, mais il m'a demandé une chose, c'est de pardonner cette personne.
Et vous n'êtes pas prête encore à pardonner?
Oh, j'ai pardonné parce qu'il m'avait demandé d'aller dire, parce que cette personne était venue vers moi me demander pardon de tout ce qu'il a eu à faire. Et moi, j'avais dit, bon, c'est passé. Et lui, il m'a demandé d'aller ouvrir ma bouche, lui dire que je lui pardonnais. Et je l'ai fait.
Est-ce que vous êtes sentie libérée après?
Je me suis sentie libérée, mais le kiné m'aurait dit que je suis bloquée. De voir ainsi pour que je puisse débloquer ma situation.
Et vous voyez ça comment, ce déblocage? Qu'est-ce qui pourrait débloquer votre situation? Un bouquet de roses magiques? Qu'est-ce que vous attendez, Lydie?
Bon, j'attends la sincérité venant du cœur.
Oui, mais c'est difficile à décrypter, cette sincérité. Docteur Fatmi, qu'est-ce qu'on peut dire encore à Lydie pour qu'elle retrouve cette confiance, parce qu'il y a une main qui se tend vers elle et elle n'arrive pas à l'attraper, cette main?
Je dirais, Lydie, si cette personne vous attend depuis 7 ans, qu'elle n'arrête pas de vous faire des déclarations, accueillez déjà cet amour et puis je pense que vous pourrez et vous êtes capable de redonner à cette personne tout l'amour que vous avez.
On vous remercie beaucoup, Lydie. Hein. Et c'est un choix musical maintenant. C'est le choix de notre prochaine auditrice que je vous propose d'écouter, Joyce de RDC, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui aime tout particulièrement ce titre de Ferregola, l'Itaka. On se retrouve juste après dans Priorité Santé. Konatala vraiment ce qui n'en a moins, ça la qui coléka. Oh oh,
hey. Oriane et Lyon, la pépite d'or.
Présence non mortiva kangalo kola ba mama catholique. Ce qui va se consommer la Maria Lipo sacro tenaye. Oh, rien bisanga ce qui aux allées qu'à Marie Madeleine. Topé cousinier, je suis pour pando comme un angaï.
mvula bachance koma konoka na ndako na ngai tobitila koseko ezalaka sina fami na bino mbenge oro
Ale Michel Ibarra Chloé Ibarra
Mbenzo yaki na finanga na systeme ya mbinzo Après avoir consisté mon silsinga et l'ingafle, auquel cocombe la nani a moli pumupumwe, pour vous s'envoler na l'île de mer, na nuit de plaisir, nuit de noces, nuit de chocho.
King Jacques Mbengue, Chancel Boulassa, Straf Oyes, allume une bougie. De maudire l'obscurité.
Priorité santé sur RFI émission question de femme, retrouver l'amour après une séparation, après une rupture. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Myriam Fatmi, médecin généraliste et sexologue à Tunis. Et je le disais, c'est vous Joyce hein, qui avez choisi de partager cette chanson avec nous. Joyce, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve en ligne de Goma dans l'est de la RDC. Alors Joyce, vous êtes en couple depuis 8 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que vous êtes toujours ensemble avec votre compagnon ou plutôt que c'est fini à vos yeux?
Bon, je pense que nous avons repris.
Vous avez repris après un temps de séparation?
Oui, après un temps de séparation de 4 mois.
Alors, une histoire d'amour qui a commencé quand et pourquoi vous avez décidé de marquer cette pause?
En fait, nous sommes ensemble depuis 2013. Nous étions encore petits tous les deux. Et depuis 2015, il est aux études à l'étranger. Il revenait de temps en temps, toutes les années, pour venir me voir. Mais depuis un temps, il ne venait plus, notamment l'année passée. Je ne l'avais pas vu toute l'année. Et au mois d'octobre, nous avions décidé de mettre une pause sur notre relation. Bon, jusque vers la fin du mois d'avril, quand nous avons repris contact... Et voilà, je pense que nous nous sommes remis ensemble comme ça.
Remis ensemble, pour vous, c'est plutôt un nouveau départ ou vous êtes ensemble, mais vous sentez que le compte n'y est pas vraiment?
Bon, nous sommes ensemble, mais le problème qui nous divisait, c'était la distance. Il va retourner très bientôt. Il est là pour les vacances. Je pense qu'il va retourner le mois prochain. Et j'ai peur qu'après son départ, que là, on se sépare une fois de plus, parce que c'est juste ça le problème.
Mais est-ce qu'il y a une échéance pour justement arrêter ces séparations, ou c'est comme ça pour tout le temps?
C'est arrivé comme ça, en tout cas, on ne voyait rien venir. À un moment, nous nous sommes décidés de rompre, et puis nous sommes remis ensemble comme ça.
Est-ce qu'il a décidé, par la suite dans sa vie, de se fixer avec vous dans cette région de l'Est du Congo, ou de repartir toujours à l'étranger?
Il m'a dit d'attendre 2 ans.
Dans 2 ans, il devrait avoir fini ses allers-retours et vous pourriez être ensemble. Est-ce que vous vous sentez capable d'attendre ces 2 ans?
Oui, mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'à un moment, je ne suis pas dépendante affective ou quelque chose comme ça?
Est-ce que vous vous sentez heureuse quand vous êtes avec lui?
Oui, oui.
Vous disputez? Il a des gestes violents, des choses difficiles, ou il est gentil tout le temps quand il est là?
Il est gentil tout le temps, en tout cas.
Docteur Myriam Fatmi, on entend Joyce qui est avec un garçon gentil mais qui vit loin, alors forcément c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. La vie de couple, surtout quand on est séparé, c'est très compliqué parce qu'elle est source de grandes frustrations. Des fois, on a envie de partager un moment, une émotion, une idée, ne serait-ce qu'une idée, ou une simple conversation avec la personne. Et voilà, on s'aperçoit qu'elle n'est pas là. Et de ce fait, au fur et à mesure, cela crée des tensions au sein du couple. Et parfois, le couple finit par se séparer.
Et cette question de Joyce qui dit finalement, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'affection ou est-ce que c'est de la dépendance?
Il faudrait qu'elle se pose et qu'elle fasse le point sur son couple en fait, sur est-ce qu'ils ont la même vision pour le futur ou pas, est-ce qu'ils sont... les bases, en fait, comment ils se projettent, parce que j'ai entendu 2 ans, oui, mais en attendant ces 2 ans, comment va se projeter leur couple, et surtout communiquer sur ce qui ne va pas ou ce qui dérange dans cette relation, afin de pouvoir bâtir cette relation sur des bases solides. Parce que la séparation, quand on est séparé de la personne, on est sujet à des doutes, on est sujet à des peurs aussi. Donc c'est vrai que la présence rassure, mais l'absence est aussi un terrible moteur de soucis et d'interrogations.
Par rapport à ce que vient de dire le docteur Myriam Fatmi, Joyce, est-ce que vous en avez directement parlé avec lui, comme ça, pour un petit peu poser des questions, poser des jalons, expliquer jusqu'où vous êtes prête à l'attendre, et puis aussi peut-être parler de ce qui se passe quand vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que vous vous êtes fait des promesses en termes de fidélité, en termes de relations? Comment ça se passe?
Des promesses, oui, mais je pense que... Bon, depuis le début de notre relation, on n'a pas l'habitude de beaucoup discuter de nos peurs et tout ça, de peur de nous décourager peut-être. Mais je pense que je dois avoir le courage de l'aborder en ce sens aussi.
Peut-être que ça lèvera vos doutes, ça vous permettra d'avancer avec plus de sérénité et de faire des projets, qu'ils soient dans le sens de rester avec lui ou de vous séparer, mais au moins de savoir où vous allez.
D'accord.
Enfin, je vous donne un conseil, moi je n'y connais pas grand-chose. Docteur Fatmi, qu'est-ce que vous en pensez, engager cet échange, cette conversation avec son ami?
C'est très important de communiquer avec son ami afin de pouvoir se projeter. Parce que cela va vous permettre de répondre à pas mal d'interrogations que vous vous posez et ça va aussi vous permettre de prendre la bonne décision.
Voilà pour ces conseils. Merci beaucoup Joyce, très très bonne journée à vous à Goma. On va partir maintenant pour le Sénégal.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on vous retrouve, Gladys, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, une séparation, on va dire ce deuil en 2007. Vous aviez fondé une famille avec votre époux. Vous avez combien d'enfants?
J'en ai 3. Deux filles et un garçon.
Et au moment de la disparition de votre mari, vous aviez quel âge?
J'avais 33 ans.
Est-ce que vous pensez que ce deuil est d'autant plus douloureux que les conditions du décès de votre époux ont été extrêmement dures? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, c'était un dimanche où on devait sortir. À la dernière minute, il disait qu'il ne pouvait plus y aller parce qu'il se sentait faible. C'est vrai qu'il était un peu malade des poumons. Mais rien ne laissait présager qu'il allait mourir subitement comme ça. Donc j'étais sortie avec les enfants qui avaient à l'époque 9 ans, 7 ans et 3 ans. Donc à mon retour vers le coup de 19h30, je l'ai vu affalé sur le perron et en train d'agoniser et avec du sang partout.
Les médecins vous ont dit la maladie dont souffrait votre mari, c'était quoi?
Oui, c'était une embolie, mais il me l'a caché tout le temps. Donc ce n'est jusqu'après son décès que j'avais vu les radios sous le lit.
Donc là, on va dire, en quelques jours, en quelques heures, vous perdez votre époux. Comment ça se passe à ce moment-là dans la famille? Ce deuil, il y a votre tristesse, il y a aussi la relation avec les autres.
Oui, tout à fait. Automatiquement, il y a 2 clans qui se sont formés. Du côté maternel du mari, tout le monde était là pour moi, à organiser les obsèques. Mais du côté papa, il a une grande sœur qui, elle avait dit automatiquement que vous avez quelque chose à voir avec le décès de mon frère. Donc elle m'a accusée automatiquement, un peu comme si j'étais une sorcière.
Vous lui aviez jeté un sort qui avait conduit à sa mort.
Voilà, voilà.
Et vous avez ressenti quoi à ce moment-là?
J'étais très blessée, blessée. J'avais beaucoup pleuré parce que moi qui vivais dans le couple depuis toujours, et je me dis, qu'est-ce que je gagnerais à tuer mon époux avec des enfants en bas âge? On n'avait pas de maison, pas de voiture. Donc toute sa richesse, c'était dans sa tête.
Vous aviez une bonne entente tous les deux.
Oui, vraiment, c'était mon époux, mon confident, mon frère et mon tout. Ouais.
Donc il y a cette agression de la part d'une partie de la famille. Vous avez une période de souffrance. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez consulté un spécialiste justement pour vous aider? Expliquez-nous comment ça s'est passé.
Oui, bon, après tout ça... Tout d'un coup, aujourd'hui j'ai mal à la tête, je vais à l'hôpital. demain c'est mon pied, c'est mon mollet droit, je me plaignais. J'ai fait tout un tas d'analyses et puis qui ne donnait rien. Finalement, le médecin chez qui j'allais toujours aux urgences m'avait dit, mais écoutez madame, vous avez subi un stress ces temps-ci, vous avez eu un problème grave. Et je lui ai dit oui, comme ça j'ai perdu mon mari ces derniers temps. Et il m'a dit qu'il fallait que je fasse une consultation spécialisée, qu'il fallait que je voie un psychiatre. Donc, ce que j'avais eu à faire à l'époque.
Ça vous a fait du bien, Gladys?
Beaucoup, parce que quand j'étais devant la psychiatre, elle m'avait mise à l'aise, elle m'a mis un paquet de mouchoirs à côté de moi, et puis elle a juste... C'est comme si elle allumait le feu, et moi, ça y est, j'ai parlé, j'ai beaucoup pleuré. C'est comme si je me suis vidée de tout mon poids.
Et avant ça, vous n'aviez pas tout lâché, ces larmes, ce chagrin, cette tristesse? Vous aviez tout gardé?
Oui, j'avais tout gardé parce que les nuits, quand les gens dormaient, moi, je ne dormais pas. Je revoyais le film de la nuit du décès jusqu'aux urgences, jusqu'à la mort. Tout me revenait tout le temps. Et donc, je ne dormais pas et le lendemain, je devais quand même travailler. À la fin, ça m'a rendu vraiment malade dans ma tête. Voilà.
Pas simplement dans vos têtes, hein, on entendait bien, il y avait le corps aussi qui parlait, il y avait cette douleur. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cette consultation chez un psy, c'était une forme de renaissance, un nouveau départ pour vous?
Ah oui, parce que le jour-là, j'avais fini de parler avec la dame, elle a pris tout son temps pour m'écouter. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis retournée pour voir l'enseigne. Hôpital principal, et il y a un grand ouf qui est sorti à moi. Et je disais,
alors, je suis sûre, attendez Gladys, je vous arrête parce que je suis sûre quand vous êtes entrée dans l'hôpital, vous aviez peur et quand vous êtes sortie, vous étiez soulagée.
Oui,
voilà.
Parce que je me disais à l'entrée, est-ce que je ne suis pas en train de devenir folle?
Et là, vous avez découvert le pouvoir de la parole.
Oui.
De votre parole.
Oui, c'est très important.
Et aujourd'hui, un homme dans votre vie?
Oui. Donc, cinq ans après, j'ai rencontré un monsieur. Oh, le pauvre, c'était comme à la confession. Il m'écoutait tout le temps et je lui racontais toujours les histoires de mon défunt mari. Et le pauvre m'écoutait et il me conseillait. Je pleurais presque dans ses bras et il acceptait ça. C'est après des années que je me suis rendu compte, en fait, de ce que je lui faisais. Mais lui, il était là à m'écouter et me donner des conseils.
Ça veut dire que cet homme qui est arrivé dans votre vie, ce nouvel homme, il vous a accepté avec votre histoire, avec votre bagage. Il n'a pas dit on oublie, on efface tout. Non, il a eu la vraie Gladys, celle d'avant, celle de maintenant. Et maintenant, vous espérez qu'il y aura un après. Vous voyez continuer avec cet homme?
Oui, parce que après, je lui disais, écoute, moi, j'ai peur de rentrer dans une autre relation parce que il y avait un sentiment de culpabilité. Je ne voulais pas trahir mon défunt mari. Donc, je me préservais. Je ne voulais pas avoir honte. Il y avait ce sentiment de honte sur moi. Donc, finalement, j'ai eu, après les consultations avec la psychiatre, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de voir que ce monsieur, il m'aime vraiment, sinon il n'allait pas accepter tout ça. Et ça n'a pas loupé. Il a souhaité demander ma main. Et c'est ce qu'il a fait. Et puis, on s'est mariés il y a quelques années de cela, il y a 3 ans.
C'est une belle histoire, Gladys. Ça fait plaisir, ces encouragements à ne pas baisser les bras, précisément. Docteur Myria Fatmi, vous avez suivi, bien sûr, ce récit. Résister à la pression familiale, ne pas céder à la coutume, ça veut dire aussi, il y a cette pression, surtout quand on est fragilisé par le décès d'un proche, mais Gladys, elle s'est faite confiance, et puis elle a fait confiance aussi aux professionnels qui peuvent aider quand on est dans la souffrance.
Tout à fait. Gladys a su faire confiance à un professionnel qui l'a aidée à traverser cette période de deuil. Elle a aussi su se montrer vulnérable avec la personne, son mari actuel, chose que généralement les femmes s'interdisent de faire afin de ne pas retomber amoureuse. Il faut savoir que cette vulnérabilité est celle que l'on cache souvent à l'autre et qui fait qu'on ne s'ouvre pas assez et qu'on laisse passer des fois la chance d'être aimé et d'aimer en retour, ce qui n'est pas le cas de Gladys. Par contre, je voudrais rebondir juste sur une phrase par rapport à la sorcellerie. C'est vrai que dans nos sociétés africaines, maghrébines, on a souvent tendance à stigmatiser l'amour, le couple, en disant « elle l'a ensorcelé, il l'a ensorcelé ». Mais en fait, c'est l'alchimie de l'amour, c'est pas de la sorcellerie.
Et ça, Gladys l'a bien compris. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Gladys. On avait une autre auditrice en difficulté à cause de l'opinion des autres, hein, le poids de la réputation, Anne du Congo-Brazza, qui explique sur Facebook qu'elle est divorcée depuis 4 ans. Une rencontre il y a 3 mois. Anne croyait avoir trouvé l'amour, mais la famille du monsieur n'était pas d'accord car ils ne voulaient pas que leur fils soit avec une femme divorcée. Elle est très déçue et elle se dit peut-être qu'elle n'est pas faite pour le mariage. Là, pour le coup, docteur Fatmi, Anne est un petit peu sous le coup de l'influence de cette belle famille et on a envie de dire que c'est bien dommage.
C'est bien dommage parce que la famille, avant tout, la famille de son mari, je pense que ce qui est important pour eux, c'est de voir leur fils heureux. Et s'il est heureux dans sa relation avec Anne, c'est pas le statut de femme divorcée qui devrait faire obstacle à la concrétisation de cet amour. Ce que la famille recherche généralement, c'est le bonheur de ses enfants. Donc peu importe le statut social de la personne, le plus important, c'est que mon fils ou ma fille soit heureux dans sa relation.
On va retourner au Gabon avec en ligne de Libreville Judith. Judith, bonjour.
Bonjour.
Alors Judith, vous avez 36 ans. Pour bien comprendre, après 10 ans de vie commune et 2 enfants, il y a eu des grossesses compliquées. Tout ça est venu s'imbriquer dans votre histoire d'amour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Bien sûr. Je suis restée 10 ans en union libre, concubinage. Avec un monsieur, il y a eu des grossesses compliquées. D'abord, il y a eu des fausses couches, 3 fausses couches durant 3 ans. Et ensuite, il y a eu une 4e grossesse qui est arrivée avec beaucoup de complications, cerclage et tout. L'enfant est arrivé au monde et les choses ont commencé à être compliquées dans le couple. Le mari n'étant pas présent, étant toujours absent, il s'éloignait de plus en plus alors que c'était la période où j'avais vraiment besoin de lui. Et jusqu'à ce que cet enfant a eu 1 an et demi, une autre grossesse est arrivée. Et lorsque j'ai eu 3 mois de grossesse, le monsieur m'a demandé de sortir de chez lui, de sortir de sa vie, de le libérer. Alors, étant enceinte, ne voulant pas des actions qui pourraient m'emmener à perdre cette grossesse, je suis allée chez mes parents pour suivre la grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Aujourd'hui, la petite fille, elle a 7 mois. Et je suis chez moi, il est chez lui, il vit sa vie, comme on le dit. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont détériorées, que la relation a pris cette flamme-là jusqu'à aujourd'hui.
Ça s'est gravement détérioré, en fait, quand vous étiez alité pour le premier bébé, on dit un cerclage, hein, pour pas qu'il y ait une nouvelle fausse couche. C'est à ce moment-là que vous avez senti que votre mari n'était plus là, peut-être même qu'il vous trompait ?
Voilà.
Ouais.
Voilà, il me trompait, il voyait d'autres femmes parce qu'il y avait des signaux dans la voiture. Quand on allait à l'hôpital, je voyais des boucles d'oreilles d'autres femmes, les montres. Il y avait plein de trucs.
Vous étiez en colère avec
d'autres femmes.
Vous étiez en colère contre lui ou vous étiez assez à l'écoute, assez compréhensif? Comment vous avez réagi à ce moment-là?
Je n'étais pas en colère, j'étais triste, mais je comprenais parce que je me suis dit que je n'avais pas droit au rapport sexuel, je ne faisais pas de cuisine, je n'avais droit à rien du tout, si ce n'est d'être allongée.
Mais excusez-moi, Judith, je vais vous interrompre juste par rapport à ce que vous venez de dire. Une femme qui est en train d'attendre un bébé, qui a une grossesse, dans votre cas, qu'on appelle une grossesse pathologique, c'est-à-dire qui doit rester alitée, qui ne peut pas faire la cuisine, la moindre des choses, c'est que l'homme qui lui a fait cet enfant l'accompagne, lui tienne la main et l'aide. Pas qu'il aille avoir des relations sexuelles en dehors de la maison, non ?
Oui.
Oui, non, on est d'accord ?
Oui.
Oui, on est d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Vous conservez quel lien avec cet homme aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'occupe de ses filles ?
Bon, aujourd'hui, on va dire il y a un mois qu'il prend soin maintenant de... Parce que le premier enfant, c'était un garçon, il s'en est toujours occupé.
Ouais.
Le deuxième enfant, c'est une fille, donc il y avait d'abord un déni de grossesse. Donc, je suis partie avec cette douleur-là jusqu'à ce que j'accouche. le déni a continué. Et puis, à un moment donné, je me suis révoltée. J'ai dit, bon, écoute, on ira faire les tests ADN, qu'on aille au tribunal, voir les affaires sociales et tout et tout. C'est à ce moment que le monsieur a baissé la garde pour me dire, non, c'est mon enfant, on n'y va pas, j'ai pas besoin des tests d'ADN, c'est mon enfant, c'est ceci, c'est cela.
Je sais pas ce que vous en pensez, docteur Myriam Fatmi. Judith, après ce qu'elle a vécu, on va dire, c'est une femme d'un grand courage, hein, d'une grande patience. Et on se dit que elle a toute la vie devant elle, non ?
Bien sûr qu'elle a toute la vie devant elle, mais surtout, il faudrait qu'elle comprenne que ce qui est en cause, c'est pas son couple, c'est pas son attitude, mais c'est surtout l'attitude de l'autre personne.
Aujourd'hui, ce qui vous garde ce lien avec votre époux, c'est si vous souhaitiez le retrouver, ce serait pour vous ou pour vos enfants, Judith ?
Pour les deux, je dirais.
Vous avez encore envie de continuer un bout de chemin avec lui ?
Oui et non.
Est-ce qu'il est prêt à changer, cet homme ? Il vous l'a dit ?
Jusque-là, nous n'avons pas eu, en ce qui nous concerne, nous ne parlons que sur le sujet d'enfants. J'ai tout fait pour m'assurer que les enfants soient nourris, qu'ils participent financièrement, moralement. Donc nous sommes à ce niveau-là jusque-là, parce que c'était vraiment du cafouillage et moi ça me faisait mal parce que la petite, elle est en train de grandir. Il faudrait bien qu'elle sache que son frère et elle, ils ont le même papa et la même maman.
Mais elle le saura, hein, elle saura avec son frère. Vous allez faire tout ça et vous le faites très très bien, c'en est certain. Est-ce que votre compagnon, le père de vos enfants, il a envie de revenir avec vous ?
Je ne sais pas.
Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'incertitude, c'est ça. Est-ce que vous avez du temps pour vous occuper de vous ?
Oui, j'ai du temps pour m'occuper de moi.
Et vous faites comment pour vous occuper de vous aujourd'hui, Judith ?
Déjà, avec l'histoire du corona, j'avais perdu un emploi. Dieu merci, j'en ai trouvé un autre. Donc, j'ai une nounou pour les enfants et puis je vais au travail. Et de temps en temps, je peux avoir du temps libre pour rencontrer des amis, discuter et puis voilà.
Et ça vous fait du bien ?
Oui, ça me fait beaucoup de bien.
Est-ce que votre famille, elle vous pousse à renouer avec lui ?
Ma famille me demande de l'oublier totalement. C'est un combat.
Votre famille vous pousse à couper avec lui, pourquoi ? Ils trouvent que cet homme n'est pas à la hauteur ?
Voilà, ils disent que ma famille dit qu'il a été trop méchant, il a été trop fort, il ne m'a pas soutenue. Je suis venue dans sa vie, des grossesses compliquées, il aurait dû m'accompagner et tout et tout et tout. Il a été trop méchant vis-à-vis de moi, que je passe à autre chose. Je suis une belle femme, je suis intelligente, je peux trouver un autre homme, je peux.
Vous pouvez, docteur Myriam Fatmi, tout à l'heure on entendait la famille qui enfonce, on va dire, et là on a une famille qui est complètement dans une optique différente. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben oui, la famille de Judith en fait a su voir la souffrance qu'a éprouvée Judith au cours de cette relation. Et de ce fait, c'est pour cela qu'il voudrait qu'elle arrête complètement de voir cette personne, ce qui est très louable. Donc, et puis, je voudrais dire à Judith, vous êtes sur la bonne voie puisque vous sortez, vous rencontrez du monde, vous avez un travail, donc vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Toute seule, faire des projets soi-même, seule, vous aideront à retrouver votre confiance en vous et surtout à prendre la bonne décision par rapport à cette relation.
On vous remercie beaucoup, hein, Judith, pour votre témoignage. Bonne continuation à vous et un grand merci aussi à vous, docteur Myriam Fatmi. Merci pour cette écoute, tous ces conseils à nos auditrices et très bonne journée à Tunis.
Merci, au revoir.
Au revoir. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons en conclusion de notre émission un reportage, le podcast Carnet de Santé. C'est au Bénin, à Avrancourt, au nord de Porto Novo, que Charlie Dupiot nous propose de rencontrer Chanceline. Militante bénévole pour les droits des filles, Chanceline organise des discussions sur les menstruations et les grossesses précoces. Des adolescentes participent à ces séances, comme dans ce collège.
On apprend aux filles à dire oui, sans jamais poser de questions. On les initie au rite du silence, sans jamais broncher ni hausser le ton. Le seul droit que tu as, c'est de la fermer et obéir. C'est ça une bonne fille.
Ce texte de Slam, Chanceline l'a écrit pour aborder la question du consentement. Pour elle, les filles au Bénin sont conditionnées à ne pas oser dire non à des relations sexuelles. Et on ne pose jamais la question de leur désir. Chanceline sensibilise des adolescentes et des adolescents depuis 2018 dans le cadre de son ONG Jeune fille actrice de développement. Elle fait cela bénévolement. Et ce dimanche matin, elle anime une séance autour des grossesses précoces dans un collège d'Avrancou, juste au nord de Porto Novo, la capitale du Bénin. Bonjour la fille. Comment vous allez?
Ça va bien.
Ok. On a remarqué que dans la commune, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de grossesse précoce dans vos écoles?
Il y a un cas dans notre classe.
Oui. Donc elle a dit, quand une fille a de grossesse précoce dans la commune, souvent elle peut être renvoyée de la maison, elle peut abandonner l'école et elle n'a pas les moyens et elle reste dans la pauvreté.
Parfois, nous autres, on les incite, ça les décourage de continuer les études.
Moi, c'est Chanceline Mevoanou, je suis béninoise, j'ai 24 ans et je suis briseuse de tabous. On lève le tabou et on en parle. Je suis devenue sensible à ces questions à cause d'une histoire qui m'a beaucoup marquée. Quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup d'amis filles. On partageait beaucoup de rêves. On voulait étudier, devenir de grandes dames. Et pendant le cursus, beaucoup ont eu de grossesses précoces et ont quitté l'école. J'étais dans la troupe de théâtre du lycée. J'ai commencé par écrire des tests de slam, à parler à des filles à l'école. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Et alors, c'est peut-être une question un peu indiscrète, mais parfois, vous bégayez un tout petit peu sur les mots.
Oui, je bégaye et je travaille beaucoup sur ça pour m'améliorer. Et c'est en même temps une façon de leur dire qu'on peut avoir quelques petits handicaps et on ne peut pas les laisser nous limiter ou réduire nos voix.
Vous brisez des tabous comme la question des menstrues, la question de la sexualité. À quelle critique vous avez pu faire face ou vous faites face?
La première critique, c'est qu'elle veut gâter nos enfants, qu'elle veut encourager les filles à aller à la débauche sexuelle, qu'elle veut détruire la culture béninoise, voire africaine, qu'elle veut apprendre le sexe aux enfants. Des petites jeunes filles qui ont ramené des choses de l'Europe veulent détruire nos enfants à l'école et vous devez arrêter ou vous devez juste dire aux enfants « abstinence, point ». Ça marchait au temps de nos parents. Pourquoi est-ce qu'il faut changer maintenant? C'est plus l'époque de nos parents.
Bonjour, c'est votre maman?
Ouais, c'est ma maman.
Enchantée. Comment vous avez vu l'engagement de Chanceline quand elle a commencé?
Elle a juste laissé Chanceline faire son choix. Quand ils ont constaté que c'est un bon choix, ils l'ont laissé sur le chemin. Elle a dit qu'elle pense que c'est pour le bien des filles, pour leur évolution, pour leur connaissance. Donc c'est pourquoi elle est fière de ce qu'elle fait.
Parfois, elle a peur parce que les gens l'appellent, même pour le dire. Elle m'appelle pour dire, écoute, essaie de te cacher un peu, parle moins fort et tout. Et je dis, ok, d'accord, mais... parfois, je ne peux pas me taire.
Carnet de santé, reportage signé Charlie Dupio en partenariat avec le Fonds français Muskoka, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Vous retrouvez ce podcast sur les sites et applications de RFI. Et vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applications de podcast pour ne rater aucun épisode. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. C'est Toussama Kéophilie Lassène, Didier Bleu et Quentin Moulin. Lundi dans Priorité Santé, émission Jeunes Auditeurs. Renouer le dialogue en famille après des tensions, des désaccords, une crise. Retrouver un terrain d'entente, relancer la communication. On attend, bien sûr, vos questions en direct à partir de 9h10. Temps universel, on se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.